Aujourd'hui, je reçois Cyril Benchimol. On va discuter d'occupation de bureau. Ça va être chouette. Cyril a monté plusieurs sociétés, dont la dernière qui s'appelle Snapdesk. On va essayer de comprendre un peu comment il surfe sur la vague des bureaux. Les bureaux, on en parle beaucoup et surtout depuis, je dirais, 24 mois, 18-24 mois, peut-être un peu plus, avec cette question de à quoi sert encore le bureau. Et justement, Cyril a plein de bonnes idées sur comment on peut utiliser les bureaux. Cyril, je vais te laisser te présenter rapidement, puis ensuite on va aborder tout ça en long, large, en travers.
Avec plaisir. Merci pour ton invitation, Arnaud. Ravi d'enregistrer ce podcast avec toi. Je suis donc Cyril Benchimol, j'ai cofondé une société qui s'appelle Snapdesk. Nous sommes une entreprise qui crée et opère des espaces de bureaux qui sont complètement prêts à l'emploi, c'est-à-dire meublés, aménagés, décorés et avec une couche servicielle assez forte, c'est-à-dire que nous nous occupons du fonctionnement quotidien des bureaux pour le compte des utilisateurs qui les occupent. Et tout cela sur des durées flexibles, donc des contrats qui commencent à partir de 12 mois.
Alors, ça, on peut faire un raccourci en disant que c'est du coworking, mais pas que, pas vraiment.
J'aime bien dire que nous sommes le cousin du coworking ou l'étape 2 du coworking. Ce qu'on fait chez Snapdesk, c'est quelque chose qui est arrivé après, en effet, une première grande innovation qui a été le coworking à partir, je dirais, de... autour de 2015. Le coworking a inventé le concept de bureau géré, prêt à l'emploi. Mais le coworking, c'est donc de la colocation d'entreprises, c'est des entreprises qui cohabitent dans un ensemble. Et nous sommes un peu une étape qui vient après, puisque nous proposons uniquement des solutions d'espace privatif. C'est-à-dire qu'une entreprise dans un espace Snapdesk, elle est chez elle, elle ne partage aucun espace commun. Elle utilise ses propres salles de réunion, elle a son propre espace cuisine, ses propres espaces détente, ses open space. Et c'est une solution que justement, et c'est un peu la jeunesse de Snapdesk, nous avons imaginé parce que nous trouvons que le coworking, finalement, c'est une solution qui répond assez bien pour les entreprises, on va dire, de 1 à 15 personnes.
Qui peuvent être en croissance, qui sont petites globalement. Ouais.
Qui sont encore petites et pour lesquelles avoir un ensemble totalement privatif avec ses propres salles de réunion, son propre espace cuisine, etc. peut vite revenir très cher pour une qualité bien moindre que ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans un coworking. Quand on est 4, ça fait beaucoup de sens en fait de se dire j'ai un petit bureau privatif et ensuite je vais partager beaucoup d'espaces communs qui vont être de très grande qualité exactement. Et quand on passe une certaine taille, que nous on a à peu près fixé autour d'une quinzaine de personnes, quinzaine de postes, c'est beaucoup plus pertinent d'être en privatif, de ne plus avoir à partager ces espaces communs. C'est un luxe qu'on peut se payer en fait à partir de ce moment-là.
Oui, alors je voudrais commencer par rappeler les pain points un peu du bureau. On parle d'une quinzaine de postes, donc on parle d'une petite société qui pourrait se dire je vais chercher mes bureaux.
Tout à fait.
Donc tu peux dire je vais chercher un bureau et là on rentre dans le bail, les contraintes du bail en disant en fait quand je vais prendre possession de mes bureaux je vais avoir un plateau vide dans lequel je vais devoir payer des cloisons, je vais devoir faire venir la fibre, je vais devoir organiser en fait tout mon bureau, ça va me coûter cher. Enfin, c'est un investissement après, cher ou pas cher, il faut y penser. C'est juste en dehors de mon business. Donc, à côté de mon business, je dois gérer mon business au quotidien. Je dois en plus m'occuper de l'aménagement de mes bureaux, trouver les imprimantes, trouver le Wi-Fi qui va faire le ménage, qui va apporter le café. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'il faut organiser dans la vie d'un bureau. Ce que proposait le coworking, c'est d'avoir des petits espaces dans des gros espaces où tout est organisé. Donc, tu n'as plus qu'à payer ton desk finalement. Et là, toi, tu parles de l'étape d'après en disant « Moi, j'ai une société qui commence à mériter d'avoir un espace privatif. Pour autant, je ne veux pas gérer tout ça. »
Exactement. Je pense que tu as très bien décrit l'état du marché. On vient d'un marché dans lequel, jusqu'à il y a très peu de temps, finalement moins de 10 ans, la seule offre possible pour une entreprise qui recherchait des bureaux, c'est le bail commercial. Et le bail commercial, la proposition de valeur, c'est de louer des bureaux qui sont complètement bruts, c'est-à-dire dans lesquels il y a tout à faire, donc des capex, des investissements pour faire souvent des travaux. On va dire que 70-80% des offres sur le marché, c'est des offres qui ont besoin de travaux assez significatifs. Il y a aussi tout l'aspect aménagement, mobilier, décoration,
qui
est assez lourd.
Il faut acheter des bureaux, des bureaux au sens propre.
Tout à fait, il faut acheter des bureaux, exactement.
Et ça coûte très cher, en fait.
Et ça coûte très cher, donc c'est beaucoup d'immobilisation. Mmh. Et il y a aussi un aspect, la qualité du bureau, les attentes sur la qualité du bureau ont beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Il y a eu un vrai gap, là où le bureau, pendant 50 ans, c'était... moquette bleue, faux plafond, néon.
Avec ces fameuses dalles faux plafond en polystyrène.
Exactement, fameuses dalles.
Ouais. Charmante.
Et en fait, il y a eu un peu une révolution qui est née dans la tech US, dans la Silicon Valley. Je pense que tout le monde a en tête un petit peu...
ma table de ping-pong.
Ouais, c'est ça. Ces images des bureaux de Google et tous ces articles qui nous faisaient rêver. Nous, on était dans des bureaux très moyens et on nous racontait que Google, il y avait des bureaux colorés avec une cafette à volonté, qu'il y avait des espaces pour dormir, pour faire des siestes, des tables de ping-pong, des zones de jeu, etc., etc. Et en fait, ça a été une vraie révolution. Et aujourd'hui, beaucoup des bureaux traditionnels ressemblent de plus en plus à ce qui est né dans la Silicon Valley.
Ouais, c'est ça.
Et créer des bureaux aujourd'hui de ce niveau-là, alors peut-être pas du niveau Google, mais quelque chose de sympa, qui soit attractif, qui donne envie de venir travailler, qui renvoie une belle image de l'entreprise, aujourd'hui, ça nécessite un vrai savoir-faire, une vraie expertise. Là où avant, le bureau, pour mettre de la moquette bleue et du faux plafond, c'était assez simple et peu coûteux. Aujourd'hui, les bureaux, c'est des aménagements qui peuvent être presque plus qualitatifs que durant le résidentiel. Ça peut coûter très cher et ça nécessite une grosse expertise pour savoir le faire. Et notre proposition de valeur, elle est justement de dire à des entreprises, nous, on sait faire tout ça pour vous et on va vous éviter de faire tout ça pour vous, là où le bail commercial, finalement, c'est faire tout ça tout seul.
Ouais.
Et il existait en parallèle une autre solution sur le marché, très minoritaire, c'est la sous-location, qui offrait de la flexibilité et souvent une offre un peu déjà prête, mais c'est quand même un marché très gris. Qui n'est pas du tout balisé, sur lequel ça relève plus du coup de chance de trouver la bonne offre.
C'est pas si simple, effectivement, de trouver la bonne taille en sous-location avec les bonnes personnes et avec a priori aucun choix esthétique.
Hein. Alors, c'est ça, et souvent on n'est pas chez soi aussi, il faut partager le branding d'une autre entreprise.
Ouais, c'est ça. Donc c'est une solution de dépannage temporaire, mais c'est vrai que ça a vraiment beaucoup évolué avec l'arrivée de WeWork, et comme tu disais, c'était peut-être une dizaine d'années maintenant tout ça.
Exact.
Un tout petit peu plus, mais. Le coworking a créé des espaces de travail qui étaient vachement plus sympas. C'est-à-dire que voilà, c'était la vraie patte de WeWork à l'époque.
Tout à fait.
C'était d'avoir des bureaux qui sont chouettes avec des plantes, avec la fameuse tireuse à bière à partir de 17h, qui n'est pas forcément toujours une super idée, mais qui choque un petit peu les habitudes. Et donc d'avoir une esthétique qui est sympa. Et cet effet Google, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment l'idée de dire le bureau, ça ne doit pas être forcément un endroit triste. Hein. Ça peut être un endroit avec esthétiquement sympa dans lequel on n'est pas si mal. Donc on n'est pas si mal là. Et donc voilà, donc les attentes des salariés du coup ont évolué pour les sociétés, donc ça devient un véritable enjeu pour elles d'avoir des bureaux qui sont, sans parler de l'emplacement, parce que l'emplacement ça reste toujours clé, mais là je pense qu'on va y venir aussi, c'est d'avoir des bureaux dans lesquels les gens ont envie de venir.
Exactement. Voilà. Et je pense que là, le Covid a encore plus renforcé cette tendance qui était déjà en cours depuis le début des années 2000. Et tu l'as très bien dit, pour moi, le grand succès de WeWork, c'est d'avoir compris avant beaucoup de monde que les entreprises aspiraient à avoir des locaux qui soient design inspirants, pensés plus pour la collaboration que la production, on y reviendra, mais moi je pense que le rôle du bureau il est fondamentalement en train de shifter aujourd'hui.
Le télétravail.
Le bureau qui a toujours reposé finalement sur deux piliers, un pilier production, je viens au bureau pour produire mon travail, et un pilier collaboration, je viens au bureau pour échanger, travailler, interagir avec tous mes collègues. Le pilier production finalement aujourd'hui il fait beaucoup moins de sens. Avant on venait au bureau parce que c'est là où on trouvait tous les outils pour travailler. Alors si on remonte très loin, c'était la machine à écrire. Si on remonte un peu moins loin, c'est le gros ordinateur de bureau, les imprimantes, le fax, la bonne connexion internet qu'on n'avait pas à domicile, etc. Aujourd'hui nous avons basculé dans un monde où tous ces outils là sont sur un ordinateur portable accessible à tous les employés de là où ils sont et notamment de chez eux. On a une très bonne connexion internet, on a tous nos logiciels sur notre ordinateur est transportable, on n'a plus spécialement besoin de venir dans le lieu de production pour avoir les outils de production.
Oui, d'autant que tout est dans le cloud la plupart
Exactement,
du temps. Donc
tout est dans le cloud aujourd'hui. Donc finalement, ce pilier production, il est beaucoup moins important aujourd'hui dans le bureau. Et le vrai gros pilier désormais, c'est plutôt celui de l'interaction, de la collaboration, de la co-création avec ses collègues. Et c'est pour ça que on vient dans des bureaux aujourd'hui s'ils sont d'abord adaptés. C'est plus que des grands plateaux où on met que des postes de travail, mais où on va trouver des zones où on peut faire des réunions, où on peut faire des visios, des phonebox pour passer des calls, se connecter avec d'autres collègues qui sont à distance, des zones de partage qui soient un peu plus informelles, des espaces de restauration, de détente, etc., où on peut un peu poser son ordinateur et venir échanger avec, avec d'autres collègues. Et c'est ça aujourd'hui que, on va dire, c'est ça que WeWork a compris, et c'est ça qu'aujourd'hui les entreprises attendent de plus en plus de leur bureau, et c'est ça que les employés, les salariés viennent rechercher quand ils viennent au bureau.
Le retour qu'on a du télétravail, c'est déjà le fait de pouvoir rester chez soi une à deux jours par semaine, donc pas avoir à subir les transports et pas souffrir d'une certaine friction d'aller au bureau, donc avoir une liberté d'organiser un peu son temps. Et on a beaucoup de retours de ok, moi quand je suis chez moi, je suis productif, je suis pas interrompu. J'ai pas quelqu'un qui passe au bureau qui m'interrompt dans une tâche. Bon, il y a le téléphone qui peut interrompre, mais on arrive à optimiser cette production qu'on peut faire au bureau mais aussi bien chez soi. Ceci dit, au bout de trop de télétravail, on se rend compte qu'on voit plus les gens. Je pense que d'un fantasme de 100% de télétravail, on a vite reculé en se disant allez moins au bureau, d'accord, mais pourquoi aller au bureau? Parce qu'on a besoin de voir les gens pour ces discussions informelles, pour ces réunions, pour cette collaboration. Donc en fait, le bureau n'est pas tout à fait mort, a priori non. Maintenant, on en a besoin différemment. C'est un peu ce qu'on on a cherché un peu le modèle, j'ai l'impression, ces dernières années.
Complètement.
Et là, on aboutit à une idée de solution. Peut-être qu'on va encore continuer à évoluer.
Alors le bureau, clairement, il vit une très grande révolution, comme il n'en avait pas vécu depuis, je pense, très longtemps. C'est vrai qu'on est passé un peu par toutes les phases. Moi, je me souviens au début du Covid, premier confinement, on a commencé à lire que le bureau était mort, que c'était terminé, que tous les bureaux allaient disparaître. Et on a lu beaucoup de choses assez extrêmes. Puis ensuite, il y a eu plein de débats sur le télétravail, le retour, les retours imposés. On a lu beaucoup d'articles sur les entreprises qui obligent les employés à revenir tous les jours au bureau. Et clairement, aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu de recul. 4 ans après, on voit que c'est un peu l'entre-deux, en fait, qui est en train de se dégager, c'est-à-dire ce qu'on va appeler l'hybride. J'ai pas forcément besoin d'être tout le temps au bureau, comme tu l'as dit. Finalement, les phases de production, je suis presque mieux chez moi à ne pas être dérangé puisque j'ai tous les outils et j'ai pas l'inconvénient d'avoir les gens qui vont venir m'interrompre, etc. Ça, je vais pouvoir peut-être faire 2-3 jours par semaine hors du bureau. Chez soi ou même dans des tiers-lieux, on voit apparaître aussi une nouvelle tendance qui sont finalement des bureaux décentralisés qui sont plus forcément le siège de l'entreprise, et des moments au bureau parce que c'est important, parce que les entreprises qui pratiquent le full remote, c'est-à-dire d'être complètement sans bureau aujourd'hui, c'est très minoritaire, c'est globalement moins de 10% des entreprises. Et le gros des troupes, c'est plutôt un modèle hybride dans lequel on va être un peu au bureau quand on a besoin de venir voir ses collègues, quand on a besoin de réunir l'ensemble des salariés de l'entreprise, quand on a besoin de ressentir un petit peu l'identité de l'entreprise à laquelle on appartient, sur des phases aussi d'arrivée dans l'entreprise, quand on a besoin d'être formé, quand on a besoin de former des collaborateurs qui arrivent, etc. Donc il y a tout un tas de petits besoins qui vont faire qu'on a besoin d'être dans un lieu physique, et c'est là où le bureau a besoin d'incarner ces besoins-là, plus précisément, qui sont plus forcément mettre que des bureaux et des chaises dans un grand plateau. Et pour le reste, en effet, plus forcément besoin d'être au bureau tous les jours.
Du coup, là, on aboutit à cette conclusion de on a quand même besoin du bureau. Il y a des solutions à différentes étapes de la vie d'une société. Donc, on peut fonder la société tout seul, avoir envie de socialiser, se retrouver dans un coworking, être deux, trois, un coworking, ça marche encore. Et puis, quand on a atteint un certain taille, on peut prendre un gros plateau sur un espace de coworking si on a envie de continuer à vivre une aventure avec plein d'autres sociétés autour, mais on peut aussi se dire, bon, en fait, moi, maintenant, j'ai envie d'être là où j'ai envie d'être dans mon espace privatif. Et par contre, je n'ai pas envie de gérer toute l'infrastructure et toute la douleur du processus de créer mon bureau. Donc, c'est là que vous intervenez. Donc, d'une part, d'un côté de la plateforme, parce que je pense qu'il y a deux côtés qu'on va aborder après. Le premier, c'est voilà, cette demande, c'est moi, je cherche des bureaux, par contre, je ne veux pas m'en occuper. C'est un peu ça. Hein,
tout à fait.
Okay.
Snapdesk, c'est né d'un constat qui est que le marché du bureau, jusqu'ici, il était finalement assez peu pensé pour le locataire. Le produit de bureau, c'est quelque chose qui, avec l'évolution des années, est surtout pensé pour son propriétaire.
Le bail, hein.
Le bail, exactement. À tel point, je pense, que beaucoup de propriétaires, de bailleurs, ont oublié finalement que le locataire est un client. Et que pour ce client, le bureau va représenter un des plus gros postes de dépenses de son entreprise. Généralement le deuxième derrière les salaires. Exactement. Et que pour lui, c'est une prestation comme une autre qu'il paye pour faire fonctionner son entreprise. Et nous, le constat en 2019, quand on a créé Snapdesk, c'est finalement le locataire n'est pas du tout considéré comme un client. Quand il va rechercher des bureaux, on va être assez dur avec lui. On va pas trop lui laisser d'espace de négociation. Il faut qu'il prenne les bureaux dans un état très brut la plupart du temps. C'est comme c'est, on doit accepter les bureaux en l'état. La fameuse clause qu'on retrouve dans beaucoup de mots.
Les rendre en l'état.
Exactement, les rendre en l'état. On va rentrer dans son intimité, on va lui demander ses comptes. On va souvent lui demander de mettre en place des garanties bancaires, des GAPD. En plus du dépôt de garantie pour s'assurer que s'il ne paye pas, eh ben, on a un moyen de récupérer l'argent qu'il va nous devoir. En fait, voilà, tout un tas de choses qui, je pense, en réalité, par la financiarisation de l'actif de bureau, font que les propriétaires, eux, ils ont besoin de sécuriser leur actif avec une société de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on vérifie les comptes sur des durées assez longues, avec tout un tas de sûretés comme justement ces garanties qu'on va demander. Et on a oublié qu'il y avait un client,
ouais.
Que ce client, il faut le traiter en fait, comme un client, qu'il faut penser à lui, qu'il faut penser à ce dont il a besoin. Et ça, nous, ça a été un terreau très, très fertile en fait, pour créer une solution qui, elle, soit pensée plutôt pour le client. Et donc d'imaginer un produit dans lequel le client va bien le traiter. On ne va pas lui demander tout un tas de choses, de connaître ses comptes, de lui demander des garanties dans tous les sens, de payer lui-même ses frais d'agent immobilier pour trouver ses bureaux. Enfin, tout un tas de choses qui ne sont pas normales pour tous les autres produits. On n'imaginerait jamais un vendeur de software comme Salesforce vous demander vos comptes avant de signer un contrat ou de vous engager 6 ans. Et pourtant, dans le bureau, on le fait et c'est un produit comme un autre. Donc, il n'y a pas de raison de le faire, en fait, pour l'entreprise.
D'accord, ouais. Peut-être qu'on paye un peu la financiarisation de l'immobilier qui en est venu à... Moi, je suis propriétaire bailleur, donc j'ai mon actif avec un financement long terme que je dois sécuriser avec un rendement long terme, donc un loyer. Et celui qui est dedans, bah, il va payer le loyer, il va me rendre les bureaux comme il l'avait pris au début et il va s'occuper de tout le reste. Et effectivement, là, tu rajoutes une couche de... Tu rajoutes un petit peu de liant entre les deux en disant, bah, ça doit pas être si dur que ça, hein, cette aventure. Faut qu'elle pourrait être sympa, quoi.
Exactement. Et donc, voilà. Et donc, nous, on a imaginé un produit qui est pensé avant tout pour le client, qui soit un produit donc pas brut, mais prêt à l'emploi, qui est une véritable expérience client. Quelqu'un qui va l'accompagner. Quand on signe un bail, en fait, une fois qu'on a signé, on fait un état des lieux et c'est très triste. On arrive dans des bureaux qui sont moches la plupart du temps, dans lesquels il y a tout à faire. Il n'y a personne qui est là pour vous aider. Quand tu signes des bureaux chez Snapdesk, c'est vraiment une super expérience. On y a beaucoup travaillé. Tu vas avoir tout un tas de personnes dans notre équipe qui vont venir interagir avec toi, qui vont te parler du futur de tes bureaux, de comment on va organiser un apéritif pour accueillir tes équipes, de la façon dont on va réfléchir un petit peu à travailler le branding de l'espace pour le rendre un peu à ton image, sur les besoins éventuels d'évolution de l'aménagement pour mieux l'adapter à la façon dont tes équipes travaillent, etc., etc. Je pourrais citer beaucoup de choses.
Ouais. Donc toi, tu sais à peu près, tu as une liste de questions de, bon, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui, de quoi vous pensez avoir besoin demain, quelle est l'ambiance que vous voulez donner, est-ce que vous voulez du flex office, des espaces disponibles, est-ce que vous voulez des bureaux fermés, voilà, tout ça,
Et
tu as la liste.
exactement, on a aujourd'hui en interne des équipes de gestion de projet, des équipes d'architecture d'intérieur, et on va être capable en fait de prendre par la main notre client et de personnaliser l'espace selon tout un tas de critères. En effet, comme tu dis, on a une liste d'éléments sur lesquels on va voir avec lui est-ce qu'il a plus ou moins besoin de ci, ça, ça et ça.
Ok, donc moi j'ai ma petite société, je cherche des bureaux, j'appelle Snapdesk, vous me dites, alors je cherche un endroit, je t'appelle et tu me dis, ah j'ai un bureau qui te convient qui est là. Tu as parlé de flexibilité tout à l'heure, donc ça veut dire que quoi, je signe un bail, je signe une prestation de service.
Alors, tu signes un contrat de prestation de
Ok.
service. Ce contrat de prestation de service, il prévoit d'une part la mise à disposition des locaux, mais il prévoit également la mise à disposition de tout ce qui va meubler ces locaux, de tout ce qui va équiper ces locaux. Donc, quand je dis meubler, c'est, entendons-nous bien, les tables, les chaises, tout le mobilier des salles de réunion, les mobiliers qu'on va retrouver dans les espaces de vie, et ensuite tous les éléments un petit peu. De rangement, des casiers, des choses comme ça. On va avoir toute la partie équipement. L'équipement, c'est avoir des locaux dans lesquels il y a un contrôle d'accès, dans lequel il y a une installation Internet, dans lequel on va avoir tout l'électroménager dans la cuisine, dans lequel il va y avoir des imprimantes dans les open space, dans lequel il va y avoir des équipements de sécurité incendie, etc. Enfin, tout ce qu'on a besoin, même jusqu'à les obligations du code du travail. Et en fait, on va te proposer quelque chose qui est vraiment tout à fait complet, en fait.
Ouais, donc clé en main, ok. Et donc je signe une prestation, un contrat de prestation de service, ok, qui a une durée, ça se passe comment? Je peux m'engager sur 12 mois, 24 mois, 1
Ouais,
mois
alors nos contrats, ils commencent à partir de 12 mois,
D'accord.
tout à fait.
Ok.
Ça offre une grande flexibilité pour.
Plus flexible qu'un 3-6-9, hein,
Ouais,
jusque-là.
c'est ça. Pour comparer, donc le produit comparable bail, c'est 3-6-9. Donc ça veut dire que c'est un contrat de 9 ans dans lequel on a une faculté de sortie tous les 3 ans, les triennales. Si ce n'est que dans des marchés tendus, comme c'est souvent le cas dans les grandes villes, notamment Paris, on se retrouve souvent quand même avec des bailleurs qui vont exiger de t'engager un peu plus que 3 ans. On va parler de 6 ans ferme, de 9 ans ferme. Et souvent, c'est ce qui va d'ailleurs faire la différence dans un peu la compétition pour pouvoir signer un lieu. Et enfin, dans notre contrat, il y a également tout le volet service, dans le contrat de prestation de service. Et le service, c'est la proposition de gérer l'intégralité des bureaux au quotidien pour toi. Donc, ça passe par avoir une personne qui va être dédiée chez nous, qu'on appelle un space manager, qui va être disponible. Par une conversation écrite, donc c'est via WhatsApp, et dans lequel tu vas pouvoir échanger avec cette personne à tout moment dans la journée sur tous les sujets qui ont trait au bureau. Pour te donner quelques exemples, tu arrives le matin au bureau, tu constates que le ménage a pas bien fait ci ou ça, tu vas pouvoir nous le remonter pour qu'on corrige. Si tu te rends compte qu'il manque des consommables, tu vas pouvoir nous le dire et on va s'occuper de corriger le tir dans la journée. Si tu as un dégât des eaux, tu vas venir nous le déclarer ici et à partir de là, c'est nos équipes qui vont prendre le relais pour s'occuper de tout de A à Z et te tenir informé de l'avancement. Si Internet est ralenti, c'est nos équipes qui vont aller faire les investigations avec notre infogérance pour comprendre et corriger le problème, etc., etc.
D'accord.
Et on va aussi faire intervenir tout un tas de prestataires dans tes bureaux que nous allons gérer et piloter comme les sociétés de ménage. Comme les équipes d'entretien et de réparation qui vont venir faire les vérifications annuelles sur la climatisation, sur la sécurité incendie, etc. Et venir réparer lorsqu'il y a des problèmes. Tu peux nous déclarer que tu as une poignée qui s'est décrochée, qu'il y a une lunette de toilette qui bouge. Et tout ça, c'est nos équipes opérationnelles qui passent, qui entretiennent et maintiennent à un très haut niveau ton espace de bureau.
D'accord. C'est à la carte ou pas tant que ça? Je veux
Alors,
dire.
tout ce dont je suis en train de te
Ouais.
parler, ça fait partie de l'offre.
D'accord.
Il y a assez peu de choses à la carte. C'est
Oui.
justement un peu la promesse de Snapdesk, c'est un prix qui englobe tout par rapport à un bail où on t'annonce un prix, mais en fait, tu vas devoir ajouter quasiment le double sur tous les à côté que tu vas devoir gérer.
Ouais, ma question, c'était, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une lubie en disant, non, moi, le ménage, j'ai mon Presta, je veux mon Presta. Ça peut être rare, hein, mais ça peut être ça sur Internet.
Ouais, ça nous est déjà arrivé, c'est extrêmement rare. On essaie de s'adapter. On essaie de rester flexible parce que c'est un peu l'identité, c'est un peu qui on est, mais c'est assez rare et après on peut retirer des services en général si besoin.
Ouais. C'est vrai que ce que tu dis sur le loyer, c'est intéressant puisque je reprends l'exemple du coworking, hein, quand on dit c'est 800 euros par mois le poste, et bah oui, mais dedans tu as le loyer et tout le reste.
Exactement, et il y a beaucoup de choses.
Et il y a beaucoup de choses, donc effectivement, comparer ça à 800 euros le mètre carré par an sur une surface, sur lequel tu dois rajouter tes travaux, tes immobilisations, ton bureau, ton internet, tes écrans, tes salles de réunion. Ouais, faut réussir à comparer ce qui est comparable. Et donc voilà, c'est vrai que cette couche de services supplémentaires, enfin d'impondérable, parce que tu as quand même besoin d'avoir des bureaux propres, tu as quand même besoin d'avoir quelqu'un qui va gérer tes consommables, et ça, voilà, il n'y a pas de miracle. Hein.
Complètement, tu as tout à fait raison. On entend souvent que les prix par poste des coworking ou même ce qu'on fait nous peuvent être assez élevés. En réalité, je pense que c'est surtout un sujet de façon d'analyser les coûts. Parce que le bail, historiquement, on communique sur un loyer hors taxe, hors charge. Encore une fois, c'est une aberration. Hein. C'est comme si un vendeur de logiciels nous parlait d'un prix hors service, hors investissement, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, pour une entreprise, ce n'est pas très palpable. Ce qui compte, c'est son coût final de revient par poste. Et en effet, à côté du loyer, il va falloir rajouter tout ce qu'on va appeler les OPEX, donc les dépenses d'exploitation. Et il y en a beaucoup. Ça va être déjà au niveau juste même des locaux, il y a en plus du loyer les charges et la fiscalité qui sont systématiquement refacturées aux locataires. Parce que le propriétaire ne veut pas les payer.
Ben non. Il veut du net.
Exactement. Ensuite, on va avoir un petit peu toutes les dépenses contraintes d'un bureau dont je viens de parler. Il va bien falloir faire du ménage dans les bureaux, il va bien falloir payer un abonnement internet, il va bien falloir faire un peu d'entretien pour les climatisations parce que faut entretenir tout ça, il va bien falloir payer l'électricité, il va bien falloir acheter des consommables et tout ça, ça a un coût qui va venir s'additionner et qui va faire bouger les chiffres assez fortement. Et ensuite, au-delà de ça, on a ce qu'on va appeler les CAPEX, donc plutôt les investissements qui vont être faits pour la plupart à l'entrée dans les locaux et parfois ensuite en cours de vie, on va en refaire quelques-uns. Et ça peut être très lourd. Donc les investissements, c'est les travaux et c'est ensuite tout l'achat du mobilier et des équipements dont on va avoir besoin et qu'on va lisser sur le temps. Là où, chez Snapdesk, finalement, le prix que tu payes, il inclut tout ça. Et sur cette partie CAPEX, c'est même une proratisation, c'est-à-dire que si tu as l'intention de changer de bureau au bout de 18 mois, finalement, tu te seras évité d'avoir fait des gros CAPEX que tu auras rentabilisé que sur 18 mois et tu auras payé finalement qu'un prorata sur 18 mois en payant ta redevance.
Ok. Donc, on revient d'un côté la demande et comment tu l'adresses, c'est-à-dire flexibiliser l'installation dans les bureaux avec un vrai accompagnement, puisque toutes les sociétés ne sont pas immobilières, donc en fait, il y en a très peu finalement. Donc, il y a peu de connaissances sur les petites sociétés de toutes ces thématiques d'installation. Donc, tu retires un pain point, comme on dit. De l'autre, la matière première, donc ta matière première, c'est les espaces de bureau.
Exact.
Donc comment tu trouves des espaces de bureau ? Est-ce que c'est les tiens ? Est-ce que tu as une foncière ? Est-ce que c'est des espaces qui sont déjà, des espaces détenus par d'autres ?
Alors j'aimerais bien les détenir, mais je suis désolé de te décevoir, c'est pas le cas.
Arrêtez le podcast.
Aujourd'hui, Snapdesk, c'est un peu plus de 15 000 mètres carrés répartis sur environ 45 sites. Ces sites à 70%, ce sont des sites que nous gérons pour le compte de propriétaires. C'est ce qu'on appelle en général en immobilier du management contract. C'est quelque chose qui est notamment très répandu dans l'hôtellerie. Le propriétaire va nous confier son site. Nous allons apporter notre savoir-faire par rapport à notre métier, notre connaissance du marché, de la façon d'aménager les locaux, de les commercialiser, et ensuite de gérer le quotidien. Et donc, on va faire ce travail de gestion au quotidien pour le compte du propriétaire. et nous allons nous répartir avec le propriétaire les revenus selon une grille qu'on va déterminer en fonction de ce que chacun apporte dans le deal.
Donc c'est pas toi qui prends un bail.
Donc sur 70% de notre parc aujourd'hui, ce n'est pas nous qui prenons un bail de nos espaces. Et sur 30% de notre parc, ce sont des espaces que nous avons pris à bail, sur lesquels nous sommes locataires. Snapdesk est locataire, donc paye un loyer tous les mois au propriétaire. Et Snapdesk ensuite a transformé ses locaux et les propose en prestation de service à ses clients.
D'accord. Donc, ok. Donc, ces bureaux, donc tes clients détiennent des actifs. Est-ce que c'est des foncières qui te laissent la gestion de l'actif ? Est-ce que c'est des sociétés qui ont trop d'espace et qui souhaitent les optimiser ? Un peu des deux ?
Alors, c'est essentiellement des bailleurs investisseurs.
D'accord.
Qui ont des surfaces de bureaux.
Ouais.
Et qui veulent les rentabiliser, qui souvent, à mon avis, ont compris avant beaucoup d'autres que notre modèle pouvait être plus créateur de valeur pour eux, parce que nous apportons de la valeur ajoutée dans tout ce que je viens de te décrire auprès de clients, et donc nous arrivons à créer de la valeur, et cette valeur, nous la partageons avec eux. Et donc souvent, ils nous confient dans le cadre d'une gestion assez longue. Aujourd'hui, on a des partenaires qui nous accompagnent quasiment depuis nos débuts, depuis un peu plus de 5 ans, et qui sont très satisfaits de la façon dont ça se passe. Plus minoritairement, il arrive que ce soit des entreprises qui font appel à nous parce qu'elles ont des surfaces dont elles ne sont pas forcément d'ailleurs propriétaires, dont elles peuvent être locataires, et qu'elles sous-utilisent, une partie qu'elles n'utilisent pas, et dont nous pensons que ça peut être un bon produit pour des entreprises qui veulent quelque chose dans notre format, et on le fait à ce moment-là.
Donc effectivement, c'est plutôt des bailleurs qui détiennent les actifs et qui veulent pas trop faire l'asset management en fait ou la gestion du locataire quoi.
Ouais, exactement. Donc ou qui sont juste pas outillés pour le faire ou qui ont pas le know-how et qui aussi ont souvent maintenant une volonté de pas aller sur le bail classique souvent parce que ils ont pu comprendre en fait l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à passer par un modèle comme le nôtre.
Alors cet intérêt, justement, parlons-en, puisque j'ai le choix entre louer 369 à une société, il faudra qu'elle se débrouille pour tout faire, et puis on verra les clauses d'indexation, etc., au fil des années, puis au moment où le locataire s'en va, il faut que j'en retrouve un, donc j'ai contacté des brokers, etc., et puis il faut que je vérifie que tout se passe bien, et puis le locataire va m'appeler quand il va avoir une fuite, et quand il y a une fenêtre qui ne ferme pas, et quand il y a... Voilà. Bon, après, je peux intermédier avec des property managers, mais c'est un boulot de gestion. Et en contrepartie de quoi, j'ai mon loyer. Toi, quand tu parles de créer de valeur, alors on pense tout de suite à la valeur financière, mais peut-être qu'il n'y a pas que ça, j'imagine qu'il n'y a pas que ça, puisqu'il y a une valeur de tranquillité probablement.
Exactement.
C'est-à-dire que ta solution ne va pas me rendre beaucoup plus riche.
Un petit peu quand même.
Un petit peu, voilà. Mais alors... Oui, c'est un bon point parce qu'il y a effectivement éventuellement un surloyer que je peux imaginer, mais tout un tas de dépenses que je ne vais pas faire puisque je vais te laisser la gestion.
Exactement. Ah. Donc en effet, tu as raison, il y a à la fois un aspect financier et il y a un aspect hors financier. L'aspect financier, c'est nous créons de la valeur parce que nous fournissons tout un tas de services et que le client va être capable de payer un petit peu plus qu'un loyer. Pour justement tout ce qu'on lui fournit. Et ça, ça va permettre in fine de reverser un revenu au propriétaire qui va être supérieur à ce qu'il pourrait percevoir dans le cadre d'un loyer en bail classique. Le deuxième aspect, c'est aussi la performance financière qui se voit moins directement. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché où les offres que nous proposons sont de plus en plus plébiscitées. C'est-à-dire que nous commercialisons aujourd'hui en moyenne beaucoup plus rapidement une offre sur notre format que dans un format d'un bail classique. Et ça, par exemple, ça peut avoir un impact sur la vacance de l'actif et donc indirectement sur le financier.
Et sur la rentabilité. Ouais.
Et ensuite, en effet, il y a toute la partie non financière, qui est la tranquillité d'esprit de confier à un professionnel qui va non seulement gérer l'ensemble de la relation avec le client et qui va permettre que le propriétaire ne soit jamais sollicité, et aussi l'entretien des locaux à un très haut niveau et de s'assurer en fait que les locaux ils restent dans un très bon état Et nous, quand nos clients partent, on récupère des locaux qui sont prêts à être reproposés à un autre client une semaine après parce qu'ils ont été très bien entretenus. Là où le plus souvent, une sortie de bail, bah, c'est moche à voir quand même.
Oui, c'est ça, il faut tout remettre à plat. Ça demande des travaux qui peuvent être conséquents. On doit curer en fait l'actif pour que quelqu'un se réinstalle. Donc il y a le délai de travaux pour remettre au niveau, le délai de travaux d'installation. Ouais, donc ça crée de la friction, ouais, effectivement. Et du coup, ces clients de ce côté, ça va être quoi, des petits institutionnels, ça peut être des grosses SCPI, c'est...
Alors, c'est majoritairement des privés, des family office.
Ouais. Donc, c'est ce que j'avais en tête, ouais.
Ouais, petit privé, gros privé. Donc, l'investisseur qui a une ou deux surfaces de bureau, le family office qui a plutôt un petit portefeuille de... d'espaces de bureaux qui peuvent aller de, je sais pas, 5 à 50. Et on commence aujourd'hui à nouer des relations avec des acteurs un petit peu plus institutionnels. C'est plus lent. Mmh. C'est des acteurs qui sont plus durs à convaincre, qui sont quand même très attachés au bail pour tout un tas de raisons, notamment pour les raisons de mode de fonctionnement de ce marché, comme tu l'as un peu expliqué tout à l'heure. Un actif, dans la plupart des cas et dans quasiment 100% des cas pour un institutionnel, ça se finance. Pour le financer, il faut avoir des sécurités de revenus, donc des baux longs avec beaucoup de garanties, parce que c'est comme ça que les banques valorisent en fait les flux financiers et que c'est pour ces raisons-là qu'elles financent. Donc si on n'a pas ça, on ne peut pas être financé. Et donc c'est un petit peu une boucle.
C'est un point qui se prend à la queue.
Exactement. Mais c'est en train d'évoluer et nous voyons aujourd'hui des acteurs majeurs de la gestion d'actifs immobiliers dans des villes comme Paris, mais même un peu partout dans le monde, prendre désormais le virage de ce que nous faisons.
D'accord, donc il y a une évolution, et puis a priori, ça ne veut pas non plus dire qu'ils donnent tout leur portefeuille en gestion, mais ça peut être une partie du portefeuille pour diversifier, pour avoir d'autres solutions et tester des nouvelles solutions. Donc oui, ce que j'avais en tête quand tu évoquais un peu l'ensemble de ta prestation, c'est de me dire, voilà, on dit toujours investir dans l'immobilier commercial, c'est compliqué, c'est pour ça qu'on a inventé les SCPI. Voilà, c'est de l'immobilier géré par des professionnels. Malgré tout, voilà, il y a des gens qui peuvent se dire, moi j'ai investi dans un petit plateau de bureau, alors pour X raisons, effectivement, family office, création de patrimoine, diversification, et se pose après toute la question de, après il va falloir gérer tout ça. Donc effectivement, rentrer dans une phase de gestion propre, c'est du boulot, c'est du temps, et puis les usages évoluent et toi, tu crées ta spécialité là-dessus sur ce que veulent les locataires et comment tu le traduis dans l'exploitation d'une surface. Donc c'est hyper logique. Ça veut dire que les plateaux, ils font quoi? Ils font entre 500 et 1500 mètres carrés
Même moins que ça. On commence autour d'une centaine de mètres carrés, même un peu moins.
D'accord.
Donc c'est des offres qui vont adresser des entreprises d'une 15 à 20 collaborateurs à peu près. Et on va aller... Alors, on peut aller sur des assez gros actifs qui peuvent représenter aujourd'hui 2000-2500 mètres carrés, mais qu'on va en général diviser pour adresser plutôt des offres qui vont jusqu'à 150-200 collaborateurs. Donc, on va dire des offres individuelles qui vont de 100 à 1000-1500 mètres carrés.
D'accord. Il y a une taille au-delà de laquelle finalement tu peux avoir les ressources en interne pour gérer ton immobilier et donc tu quittes un peu ta solution ou
Alors oui, j'ai envie de dire que le cœur de notre cible aujourd'hui, c'est des entreprises, donc comme tu l'as compris, qui ont un peu passé le cap d'être en coworking. Mais en effet, c'est pas non plus des grosses entreprises, parce que les grosses entreprises aujourd'hui, elles peuvent avoir toutes les ressources en interne pour faire tout ce que nous faisons, pour le faire plus spécifiquement, même adapté à leur métier. Mais je n'exclus pas que tout ça évolue encore dans le temps. On a vu déjà que quand on a commencé, notre cible, c'était plutôt des petites entreprises, là où aujourd'hui, on a beaucoup de demandes pour des entreprises de 100 à 150 collaborateurs. Et ça, déjà, c'est une évolution par rapport à il y a 4-5 ans que nous sommes créés.
J'ai envie de poser la question des ordres de grandeur. C'est-à-dire que, en gros, si je dois louer 100 mètres carrés, un bail classique, combien ça va me coûter et combien ça va me coûter chez toi? Je suis en train de me demander ce que c'est pertinent comme comparaison, parce qu'on vient de dire justement qu'il y avait tout un tas de coûts annexes. Donc mon bail 369, si je suis dans le prime de Paris, ça va me coûter entre 800 et 900 euros et 1000 euros le mètre carré par an.
Ouais.
Voilà. Et à cela, j'ai juste les locaux. Donc je l'ai pas installé, j'ai pas de réseau, j'ai pas payé l'électricité, j'ai pas de ménage, j'ai pas de consommable.
Exactement.
Et si je veux louer mes 100 mètres carrés clé en main avec toi, déjà, je t'appelle, je te dis j'ai besoin de 100 mètres carrés, j'aimerais bien être dans le 8e.
Exact.
Voilà, tu me dis j'ai pas. Si j'ai, c'est là. Et après, toi, t'es où t'as identifié et les locaux sont prêts, ou t'as identifié et il y a encore du travail pour les adapter à ma demande.
Alors, nous, on construit des locaux qui sont réversibles, c'est-à-dire on les imagine pour tout un tas de clients potentiels. Et ensuite, à la marge, une fois qu'on va identifier une entreprise que ces locaux intéressent, on va discuter avec elle de la façon dont on peut éventuellement un peu les personnaliser, si elle estime qu'il y a besoin. Parfois, il n'y a même pas besoin. Ce qu'on a imaginé convient très bien et donne plein d'idées aux entreprises de la façon dont elles ont envie d'organiser leur travail. Mais s'il y a besoin en effet de les adapter, on va avoir les ressources en interne, notamment comme je te disais avec une équipe d'archi d'intérieur qui va pouvoir apporter les modifications nécessaires.
Ce joueur là, sur ton site, tu as du stock quelque part, tu as des annonces en tout cas. Donc tu as des bureaux disponibles.
Exactement.
C'est quoi ? C'est des bureaux qui ont été libérés ?
Alors qui vont être libérés pour la plupart, puisque même je pense dans le stock que tu es en train de voir, y a des bureaux qui sont affichés comme bientôt disponibles, mais qui en gros ne le sont pas encore.
D'accord. Donc toi tu sais que le locataire, enfin l'occupant, parce que c'est pas un locataire.
Ouais, alors nous on parle de client, de redevance, en effet on parle pas de loyer et de locataire.
D'accord.
Bah, notre client en fait, il va nous donner, alors chez nous il y a un préavis qui est assez court, qui est 3 mois, par opposition au bail où c'est 6 mois en général. Et donc il va nous prévenir 3 mois avant de son intention de partir.
D'accord.
Et à partir de là, on va rentrer en commercialisation de notre espace. Et tu dois certainement aussi voir des espaces qui sont des nouveaux espaces dans notre parc, qui sont des espaces que soit qui sont actuellement en cours de travaux ou d'aménagement, soit même qui ont été terminés et qui sont disponibles à la commercialisation.
Il y a occupé, bientôt disponible et disponible.
Exact.
D'accord. Ok.
Disponible voulant dire tu peux rentrer tout de suite, et bientôt disponible c'est que c'est pas encore, voilà, c'est pas tout de suite dispo, mais ça va le devenir.
Ouais. Donc c'est effectivement comme on va dire le co-living où les résidences en fait ont un taux d'occupation de 97% parce que dès l'instant qu'il y en a qui s'en va, on a une liste d'attente. Donc toi ton jeu c'est effectivement de maximiser l'occupation.
Exact.
Pour mieux répartir la valeur, quoi.
C'est très intéressant. Notre taux d'occupation actuel est de 97%.
Ah oui.
Ouais.
D'accord. Sur 15 000 mètres carrés.
Sur 15 000 mètres carrés. Donc, il est plutôt excellent en ce moment.
Ouais.
On a une très bonne première partie d'année 2024. On a eu une année 2023 qui a été un petit peu plus chahutée quand même.
Mm-hmm. Ouais.
J'ai envie de dire les conditions macroéconomiques. Ont rendu l'activité un peu plus compliquée, mais on a quand même maintenu un taux de remplissage quasiment à 90%, on était à 89,9%.
Ouais. De ta lucarne, comment tu vois l'immobilier de bureau ? Là, je vois que c'est quand même très centre-ville, ce que tu as. Hein. On n'est pas en périphérie, donc ça fait écho un peu à mon sentiment sur le bureau, qui est que le bureau de centre-ville aura toujours le vent en poupe, à la fois des petites et des moyennes surfaces, parce que c'est très accessible, c'est très central, et tu peux habiter tout autour de Paris, en fait, tu as tout un réseau qui t'y amène, donc c'est très bien. Et les grands ensembles de périphérie souffrent un petit peu aujourd'hui avec des entreprises qui laissent de l'espace, qui libèrent leurs locaux, et c'est très dur de les relouer. Alors, pour autant, est-ce que une solution comme celle de Snapdesk peut convenir à l'exploitation d'une partie d'une tour à la Défense ? Est-ce que ton modèle plutôt centre-ville, un peu comme les espaces de coworking, comment ça, c'est quoi ta vue sur le marché immobilier de bureaux ?
Alors je partage ton analyse. Je pense que post-Covid, on voit qu'il y a une course à la centralité qui devient assez évidente. Il y a une course à la qualité, et la qualité elle passe par deux choses. Elle passe par la qualité intrinsèque des locaux eux-mêmes, mais elle passe aussi par leur localisation et leur environnement immédiat, le quartier dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, les employés n'ont plus forcément envie d'aller dans les locaux qui sont mal desservis, dans lesquels ils vont devoir mettre beaucoup de temps avant d'y aller. Ils vont vouloir venir si c'est facilement desservi, si ça prend pas trop de temps, et si le quartier dans lequel se trouvent les bureaux est agréable pour aller manger quelque chose à midi, pour prendre un verre ensuite avec des collègues en fin de journée, etc. Donc oui, aujourd'hui, nous, Snapdesk, c'est une solution qui est dans la centralité, parce qu'on pense que c'est aussi la tendance forte du marché, De plus en plus, d'ailleurs, on voit des entreprises qui, en gros, réduisent leur empreinte en nombre de mètres carrés et en contrepartie vont accepter de payer un peu plus cher leur bureau au mètre carré pour aller vers quelque chose de plus central. En effet, aujourd'hui, le marché, les chiffres le montrent, hein. Post-Covid, en fait, on a. Et alors, Paris, c'est aussi en plus un excellent exemple par rapport à d'autres marchés dans le monde. On voit que dans le centre, on a des taux de vacances qui sont extrêmement bas, historiquement bas. Le taux de vacances dans le quartier central des affaires à Paris, donc les arrondissements centraux, il est actuellement, au moment où on se parle, à 2,3%, ce qui vraiment est de l'ordre de.
Oui,
Juste le.
plein, c'est le plein emploi là, hein,
Ouais, c'est ça,
ça
c'est le plein
calme.
emploi, c'est-à-dire c'est à peine le mouvement entre. Deux locataires quoi. Si on prend Paris intramuros, le taux de vacances il a un peu augmenté post-Covid, mais il reste relativement acceptable, il est autour de 8%. Mais par contre, si on regarde l'Île-de-France dans son entièreté, là on est plutôt quelque chose qui ressemble à une 10-12%.
Ouais, sur un parc de 50 millions de ou
Ouais,
55 millions,
55 millions de mètres carrés.
55 millions, donc il y en a 5, 6, 6 millions qui sont vides
Ouais, c'est ça.
aujourd'hui. Ouais.
Et ensuite, on voit des poches comme la Défense qui sont un peu plus complexes à analyser parce que la Défense, c'est quand même quelque chose qui est relativement bien desservi finalement, qui n'est pas de la centralité mais qui est pas loin du centre. Et pour autant, on a des taux de vacances à la Défense qui sont supérieurs à 15%. C'est assez vide, ça a beaucoup augmenté post-Covid.
Ça, c'est l'effet, c'est un gros quartier d'affaires
Alors,
qui
en effet, c'est l'effet. Alors, il y a probablement plusieurs effets. Le premier, peut-être, qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a eu beaucoup de nouvelles offres qui ont été livrées à la Défense.
Il y a des tours qui
Il
sont
y a eu
arrivés.
beaucoup de tours qui sont arrivés, qui étaient programmés, prévus pré-Covid, et qui sont donc retrouvés sur le marché
Et on s'arrête pas au
post-Covid.
milieu du chemin, hein,
C'est ça
généralement. Ouais.
exactement. Et ensuite, en effet, on a tout le phénomène. C'est moins attractif, une grande tour. Alors même s'il y a beaucoup d'évolutions qui sont en cours, je trouve, dans ces tours-là, pour les rendre beaucoup plus attirantes. Mais historiquement, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, la moquette bleue et le faux plafond, le néon, c'est un peu l'image qu'on avait justement de ces tours de la Défense. C'est de moins en moins le cas. C'est quasiment plus le cas dans beaucoup de tours. Et puis ensuite, il y a l'environnement dans lequel se trouvent ces bureaux-là, qui, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits, ça reste très froid. Ça reste des quartiers qui, la nuit est venue, sont très vides parce
Ouais, c'est
que les
moins
gens viennent pour
attractif. Hein.
travailler. Ouais, c'est ça.
C'est des grands espaces, il y a du vent, il n'y a pas de verdure.
Exactement.
Voilà. Et puis, il faut prendre le RER pour traverser Paris pour retourner chez soi. Il y a des côtés qui sont peut-être pas forcément super, super glamour. Ouais.
C'est ça.
Et comme on le disait tout à l'heure, bah, pour être attractif, les sociétés se rendent compte que c'est quand même plus sympa d'avoir une localisation qui est centrale, avec des petits commerces de bouche, des petits commerces de quartier pour faire sa pause et prendre un café. Ce qui rend la vie un petit peu plus sympa dans son quotidien. Ouais.
Exact.
Donc effectivement, alors tu es plutôt sur Paris, tu as des offres en province?
Alors, on n'est pas présent en province
D'accord.
aujourd'hui, c'est un axe de réflexion, mais on a fait le choix de se concentrer sur Paris. Paris est un des plus grands marchés de bureaux au monde, considéré comme le troisième marché après les métropoles de New York et de Tokyo. Donc, c'est pour nous un terrain de jeu fantastique. On a la chance d'avoir ce grand terrain de jeu. Aujourd'hui, notre objectif est d'abord de bien établir notre position sur le marché parisien avant d'envisager éventuellement d'aller ailleurs.
Donc dans les grands chiffres, tu disais tout à l'heure, donc 15 000 mètres carrés, 45 sites, et vous êtes une trentaine, c'est ça?
Ouais, on est quasiment une trentaine aujourd'hui dans l'équipe.
Donc il y a quand même du monde. Ça te fait combien de le client locataire?
Clients locataires, on doit être à une cinquantaine à peu près, puisqu'on a quelques sites qui sont un peu divisés, même si la plupart des sites sont monoclients.
D'accord. Et avec des perspectives de croissance, forcément.
Snapdesk, c'est une société qui existe depuis 5 ans, qui a été une aventure de croissance jusqu'ici. On a quasiment doublé de taille chaque année, puisque. Bah on est parti vraiment, on a ouvert notre premier site en 2019 qui était un site de moins de 100 mètres carrés. Et on a doublé ce parc de taille quasiment chaque année pour arriver à ces 15 000.
D'ailleurs, la première année, comment tu as trouvé le premier site et comment tu as expliqué que tu avais une super solution ?
Eh bien, c'est pas vraiment moi qui choisis le premier site, c'est plutôt le premier site qui m'a choisi.
D'accord.
Parce que, comme on le racontait, quand tu es une entreprise qui n'a pas de bilan, qui n'a pas beaucoup de trésorerie, qui n'a pas vraiment d'historique, louer des bureaux dans Paris centre, ça relève du parcours du combattant. On te prend pas au sérieux, on te demande des milliards de choses et dans la plupart des cas, on te rejette tout simplement. Et donc voilà, on a beaucoup bataillé au départ. Nos premiers sites, ils se sont faits en prise à bail parce qu'on avait, c'était très compliqué en fait de convaincre des propriétaires de nous confier la gestion de leur actif. Il a plutôt fallu d'abord démontrer notre modèle en prenant nous-mêmes le risque. Et c'est ce qu'on a fait sur tous nos premiers sites. Et donc voilà, on a trouvé nos premiers sites en faisant plein d'offres sur tout un tas d'espaces et il y en a assez peu sur lesquels on a été accepté au départ. Jusqu'à en avoir quelques-uns et montrer que ça fonctionnait.
Ça me fait penser au début de WeWork.
En effet, il
a fallu prendre des risques au début. Eux, leur risque était de payer un loyer qui était beaucoup plus cher que le marché pour convaincre le propriétaire que son risque était rémunéré. Voilà. Tu n'es peut-être pas dans cet extrême-là, mais effectivement, tu as dû prendre à bail, ce qui est quand même un risque pour toi, parce qu'il y a des contraintes, comme on évoquait tout à l'heure. Tu as été engagé sur une certaine durée, on te demande quand même une GAPD. Voilà, c'est un peu lourd financièrement.
Complètement. Et d'ailleurs, au début, nous, on a un peu dû répondre à toutes ces règles. On n'avait pas de bilan. On a dû mettre en place des GAPD, parfois donner des mois d'avance. Tout un tas de choses pour rassurer, en effet, des propriétaires.
Voilà, et pour rappel, une GAPD, c'est une garantie à première demande. Ça peut souscrire auprès d'une banque qui va se substituer à toi si tu fais défaut. Mais ça coûte de l'argent, évidemment.
Ça immobilise de l'argent. La plupart du temps, la banque va te demander d'immobiliser cette même somme qui peut être 6 mois ou 1 an de loyer. Ça peut vite faire beaucoup.
C'est ça.
Immobiliser auprès de la banque cette somme-là.
Voilà. Donc, ça te demande quand même de sortir de l'argent, de le mettre à la banque, de payer une prime probablement tous les ans de sorte d'assurance. Donc, c'est des sous qu'il faut trouver au début. Et comme tu es entrepreneur au début, tu n'as pas forcément beaucoup de sous à mettre dans le business ou tu essaies forcément d'en mettre le moins possible. Mais bon, à un moment, il faut donner de sa personne pour que ça fonctionne. Donc, voilà le premier site. Et aujourd'hui, on va dire que c'est... Qu'est-ce qui vient taper le plus à la porte ? C'est les sociétés qui ont besoin de bureaux et qui veulent du clé en main, en disant franchement, j'ai commencé à regarder de mon côté, c'est trop compliqué, il y a trop de trucs à gérer, j'ai autre chose à faire. Ou c'est les bureaux, les propriétaires qui vont se dire en fait, moi, c'est aussi compliqué pour moi et ça a l'air d'être pas mal votre truc. Ou les deux ?
Très bonne question. Je dirais que ça dépend des moments, ça dépend des cycles. De façon générale, quand même, on a beaucoup de demandes côté client pour ce qu'on fait. On reçoit à peu près 100 à 150 demandes par mois chez Snapdesk pour des bureaux. Alors, tout n'est pas forcément exactement dans le scope de ce qu'on sert. Parfois, c'est trop petit. Parfois, c'est pas dans les bonnes localisations. Mais on reçoit beaucoup de demandes, bien plus que ce qu'on est capable de produire, puisque nous, on arrive en moyenne depuis les débuts de Snapdesk. On a réussi à peu près à produire un espace par mois, quoi. Donc quand on a plus d'une centaine de demandes par mois, il y a clairement beaucoup de demandes par rapport à ce qu'on peut offrir. Et ensuite, côté espace, côté actif, nous on a toujours fait le choix d'avoir un développement raisonné, de pas justement un peu... Tu citais WeWork, je pense que WeWork pour moi a eu beaucoup de mérite sur beaucoup de choses, mais probablement a fait une erreur qui a été importante et qui a même été, je pense, fatale par certains aspects. Ça a été de vouloir se développer trop vite dans des conditions économiques qui n'étaient pas bonnes. Or, ça reste un métier qui exige d'être très rigoureux financièrement. Nos marges, elles ne sont pas énormes.
Oui.
Et donc, il faut gérer très bien. En fait, c'est d'ailleurs un grand axe de développement de Snapdesk aujourd'hui, l'excellence opérationnelle, pour justement avoir une gestion au plus juste des finances. Juste ce qu'il faut pour fournir le bon service, mais dépenser les bonnes sommes d'argent et pas trop. Et donc, notre développement a fait que on n'a pas voulu prendre tout et n'importe quoi. On s'est concentré sur des actifs dont on pensait qu'ils répondaient à un besoin, qu'on allait trouver des clients que ça intéressait. Et, Et notre développement, il s'est aussi beaucoup fait par le bouche à oreille, des gens qui ont été satisfaits de travailler avec nous, que ce soit tant côté client, mais aussi côté propriétaire. On a beaucoup fonctionné. C'est un petit monde, finalement, le monde des investisseurs immobiliers qui détiennent du patrimoine de bureau. Et c'est souvent par recommandation parce qu'on a été jugé sérieux, efficace, qu'il y a une... enfin, que la proposition de valeur elle a été honorée, qu'on délivre et financièrement et humainement. Et c'est comme ça qu'on continue à se développer. Il y a des moments où on a accès à beaucoup d'offres de bureaux et d'autres où parfois on ne trouve pas forcément ce dont on a besoin. Et en effet, c'est plus difficile pour le développement.
Ouais. Pour reboucler un peu sur WeWork, c'est un sujet fascinant et j'invite tout le monde à regarder la série We Crashed
Elle est géniale.
Qui est fantastique. Il y a un coup d'Hollywood dedans, mais je pense qu'on est quand même pas très très loin de la réalité. Et voilà, pour bien connaître l'histoire, c'est vraiment une super série. Et il y avait plusieurs choses. C'est que, on avait un entrepreneur un peu fou et mégalo à la tête de cette société, donc qui avait un parti pris, on va dire, dans le développement de sa société, qui est de dépenser beaucoup d'argent pour effectivement envahir le marché le plus rapidement possible. Et ça, c'était aussi la mode des années de 2010, on va dire, sur l'entrepreneuriat. C'est la mode du j'envahis le marché le plus rapidement possible parce qu'en fait, il n'en restait qu'un.
Exact.
C'est la mode d'Uber, c'est la mode de Airbnb, c'est la mode de WeWork, avec des choix d'un moment. Et à un moment, il faut devenir rentable. Ce qui est très bien montré dans la série, c'est qu'à un moment, le fonds d'investissement arrive en disant faut quand même gagner de l'argent dans l'affaire. Et il commence à demander des comptes et c'est là où ça commence à être un petit peu chaud. Et donc oui, l'idée c'est qu'on peut aussi avoir un développement tout à fait raisonné dans le monde entrepreneurial. On n'est pas obligé de bouffer le monde en entier et avoir un niveau satisfaisant de croissance. Et surtout, comme tu l'évoquais tout à l'heure, tu as un niveau de marge qui va dépendre de ce que tu arrives à servir entre ton client et ton bailleur. Et donc, toi, tu es entre les deux. Donc, effectivement, tu peux pas faire x3, x4 sur les loyers parce qu'à un moment, c'est plus soutenable. Donc, il y a une épaisseur de trait à trouver qui convient à tout le monde, quoi, et qui te permet de rémunérer tes équipes. Quoi.
Exact. Et c'est pas du software où le coût marginal, finalement, est extrêmement faible. Nous, chaque coût marginal, finalement, a une vraie importance dans le PNL. Oui,
oui. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est une thèse que je défends depuis des années en cours en disant les propriétaires doivent s'intéresser et s'intéressent de plus en plus à leurs locataires. Bien sûr, c'est comme lui qui paye à la fin. Et aujourd'hui, le locataire, il peut devenir exigeant. En termes de négociation, on parlait des rapports de force qui peut opposer locataire et bailleur. Je dirais que ça dépend du taux d'occupation en fait. Hein. Et aujourd'hui, on voit dans Paris, il y a 2,3 dans le QCA, 2,3% de taux d'occupation en fait, t'as zéro négociation pour le locataire. À la défense, là, c'est la fête. Hein. Et les négociations, ça va être quoi? Ça va être de la franchise de loyer principalement. Donc ça veut dire qu'on se engage sur 9 ans, mais on ne paye pas pendant 3 ans.
C'est ça.
Ce qui peut payer 2-3 travaux. Mais dans un milieu très contraint, et on voit cette polarisation hein, du marché central qui est de plus en plus demandé. C'est pour ça que le loyer prime, il ne subit pas la crise qu'on évoque hein, dans la presse et qu'on vit. Hein, mais on a toujours des loyers prime qui se stabilisent, voire qui augmentent.
Très clairement, ouais. Alors oui, le loyer prime, il augmente en continu. Même le taux de vacance du QCA, on a beaucoup dit qu'il allait augmenter, il n'a jamais augmenté. Donc en effet, ça montre que, comme tu le dis, il y a une polarisation du marché aujourd'hui. Parce que le taux de vacance du QCA, il est même plus bas en réalité que pré-Covid. Donc ça montre qu'en fait, il y a un vrai mouvement vers cette centralité.
Ouais. Quand on cherche des bureaux dans Paris, en fait, c'est compliqué.
Exact.
C'est compliqué. Et je fais quoi ? Un autre podcast qu'on avait enregistré sur est-ce que c'est une bonne idée de transformer les bureaux en logement ? Oui et non. Disons que l'idée, on peut la comprendre, mais les bureaux, on voudrait les transformer en logement, on en a besoin à cet endroit-là. Et on ne va pas transformer des tours de bureaux à la Défense en logement. Il faudrait repenser le quartier.
C'est ça. En fait, je trouve que le marché du bureau est devenu de plus en plus dur à lire. Là où avant, on pouvait faire beaucoup de généralités.
Il y avait des tendances.
Ouais. Post-Covid, en fait, on se rend compte que c'est surtout devenu des micro-marchés qui n'ont plus rien à voir entre eux. Et même d'une géographie à une autre, hein, parce que ce qu'on observe sur le marché français, le marché parisien, c'est par exemple assez différent de ce qui se passe sur le marché américain. Si tu lis la presse immobilière américaine, tu vas sur le bureau notamment, tu vas lire des choses beaucoup plus négatives que ce que tu diras sur l'Europe. On a des taux de vacances, y compris dans le centre des grandes villes américaines, qui sont beaucoup plus élevés. Pour donner un point de repère, le taux de vacance à Manhattan, il est quasiment de 20%. C'est 3 fois plus que Paris intramuros. Et ça montre, et alors il y a même des villes où ça fait carrément peur, hein. À San Francisco, on est presque à 40% dans la ville
Ouais,
intramuros.
quasiment un mètre carré sur deux, quoi.
Ouais,
Ouais.
c'est ça. Donc en fait, ça montre des dynamiques assez différentes, déjà parce que probablement des raisons et des. On va dire des modes de fonctionnement de société qui sont assez différents entre les États-Unis et l'Europe, par exemple. Mais il y a aussi la réflexion sur l'Asie qui est aussi pertinente. On fait plus de télétravail aux États-Unis, on est moins revenu au bureau post-Covid. Là où, quand on regarde un marché comme Paris, en effet, on a quelque chose qui a plusieurs vitesses, mais on n'a pas de segment non plus sur lequel ça a vraiment. Exploser le taux de vacances, même avec des taux de vacances à 15% à la Défense, on ne peut pas dire que ça a été une explosion. C'est élevé, et en effet, ce n'est pas des territoires qui se prêtent à de la conversion, mais par contre, peut-être que en périphérie d'une ville comme Paris, où on a aussi beaucoup de bureaux qui a été créé et où on a pas mal de vacances, ça peut devenir un axe de réflexion intéressante. Même si ce que je le dis souvent, c'est que le coût de transformation du bureau en logement, il est assez élevé quand même.
Oui, d'une part il est élevé, ensuite tous les bureaux s'y prêtent pas parce qu'il y a des
En plus.
trames qui sont complètement différentes et se pose la question de la localisation. Est-ce qu'on a à quel endroit on transforme des bureaux en logement, quoi. Donc il y a eu quelques opérations. C'est un peu, moi j'ai envie d'appeler ça l'arlésienne parce que ça fait des années qu'on en parle, en disant, ah, on manque de logement, on a trop de bureaux. Et oui, et c'est comme quand on dit qu'on manque de logement et d'autres disent, bah, en fait on en a assez mais ils sont pas au bon endroit. Et transformer des bureaux en logements, c'est une bonne idée, mais en réalité, elle s'applique assez peu, puisqu'on ne sait pas l'endroit où les gens ont envie de vivre. Donc,
Ouais, ça c'est très bien. Bah, l'exemple sur la Défense, en effet, il est plutôt clair.
Et encore, c'est un quartier qui reste proche de Paris, sur
Exact.
lequel il y a aussi des appartements du résidentiel, hein, mais il faut repenser le quartier.
Tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça, en fait, je citais l'exemple de Manhattan, parce que à Manhattan, on peut plus facilement transformer du bureau vide en logement, puisqu'on est justement dans un ensemble où c'est beaucoup plus mixte.
Effectivement. Ouais. Donc je pense qu'on a bien compris. Snapdesk, c'est des bureaux clés en main, on va dire.
C'est ça.
D'un côté, des entreprises qui cherchent leur poste, enfin de quoi loger leurs salariés pour pas s'embêter avec la gestion, avec une équipe qui va gérer toutes les emmerdes, on va dire. Et de l'autre côté, c'est une plateforme, hein. De l'autre côté, tu as les propriétaires. Donc plutôt des propriétaires de petite et moyenne surface qui vont être généralement des privés ou des family office avec voilà une main tendue hein, aux gros propriétaires qui pourraient avoir besoin de gérer une partie de leurs espaces parce que c'est vrai que quand on réfléchit les CPI pour les nommer elles ont des parcs diversifiés avec qui peut être très hétérogène. On peut avoir des très grosses tours comme de beaucoup de plus petites surfaces et on voit bien qu'il y a un moment dans la gestion, on va se concentrer sur des grosses surfaces pour délaisser les petites, ce qui donne lieu à peut-être de la vacance qui va se créer sur les petites surfaces parce que c'est trop d'asset management. Et donc là, effectivement, ta solution peut leur servir. Donc c'est vrai que voilà, la main est tendue.
Exact,
Super.
on y travaille en tout cas, nous.
Ok. Bah écoute, merci. Je pense que tout est beaucoup plus clair et c'est vrai que j'aime bien cette tendance de gestion de l'immobilier. Voilà. On voit bien que voilà, c'est un vrai métier.
C'est le sens de l'histoire aussi, je
Hein,
pense, pour répondre aux attentes des clients, en fait.
Exactement. Et comme on est depuis l'avènement des smartphones, on va dire, sur une expérience utilisateur. Il n'y a pas de raison qu'on se prive dans l'immobilier, et notamment dans l'immobilier de bureau, pour le rendre toujours un peu plus sympa, plus flexible, plus utile et plus accessible.
C'est ce qu'on essaye.
Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour.
Yes.
Et bah c'est super. Mais écoute, Cyril, je te dis un grand merci.
Merci à toi, Arnaud.